Le journal est présenté par Benoît Bouscarel. Bonsoir Benoît.
Bonsoir à toutes et à tous. L'application de nouveaux droits de douanes américains dans le secteur automobile reportée d'au moins 6 mois. Trump vient d'en faire l'annonce au grand soulagement des constructeurs, notamment européens. Grégory Phillips nous attend en direct de Washington. Nous reviendrons également dans ce journal sur l'arrivée en France de Mehdi Nemmouche, le tueur du musée juif de Bruxelles, est poursuivi par la justice antiterroriste pour son rôle de geôlier présumé d'otages français en Syrie en 2013-2014. Précision d'Antoine Marette. Et puis l'enquête de cette édition sur l'inquiétant succès de la plateforme Doctolib, un succès qui porte en lui de nombreux dangers potentiels, nous expliquera Marjolaine Corr. Mais d'abord, en Côte d'Ivoire, des affrontements interethniques, notamment entre Baoulé et Dioula, ont fait 9 morts et 84 blessés ces dernières heures. Les tensions ont eu lieu à Béoumi, près de la ville de Bouaké, au centre du pays. Tout est parti d'une altercation entre chauffeurs de taxi qui a dégénéré 2 jours durant. Ce soir d'ailleurs, la situation est toujours tendue. Les précisions sur place de notre correspondante Amandine Réau.
C'est à l'origine une bagarre entre 2 hommes, l'un détenu Dioula, chauffeur de taxi Brousse, l'autre détenu Baoulé, pilote de mototaxi. Le second est laissé pour mort. L'altercation se transforme en bataille rangée mercredi et hier. Le bilan humain est lourd, une partie de la ville saccagée. La querelle est ancienne entre les transporteurs de ces deux ethnies, déjà ravivée par les affrontements en octobre dernier lors des élections municipales. Hier, le porte-parole du gouvernement, Sidi Touré, a convoqué les représentants de communautés pour trouver une sortie de crise. Selon le ministre, certains jeunes ont enlevé leur barrage pour que la circulation reprenne. Ce soir, la situation s'est un peu apaisée, mais la tension reste vive dans la petite ville de Béoumi. De jour comme de nuit, les forces de l'ordre patrouillent pour éviter de nouveaux affrontements. À tout moment, on sait que les choses peuvent dégénérer, précise une source sur place. Un couvre-feu est en vigueur, au moins jusqu'à lundi.
Amandine Réau depuis Abidjan. Du répit pour l'Allemagne et notamment pour son secteur automobile, comme pour tous les constructeurs et équipementiers de l'Union européenne concernés, comme par ailleurs les Japonais, par l'annonce de Donald Trump dans le courant de l'après-midi. Le président américain a confirmé qu'il accordait jusqu'à 6 mois de délai supplémentaire à l'UE et au Japon avant de décider s'il imposait ou non des droits de douane supplémentaires dans le secteur automobile. Bonsoir Grégory Phillips.
Bonsoir Benoît.
Depuis Washington, Trump veut laisser une place à la négociation. Son secrétaire au commerce a en l'espèce des consignes précises pour les 6 prochains mois, avant d'utiliser peut-être une arme à double tranchant censée protéger les constructeurs américains, mais possiblement très néfaste pour le commerce international.
Oui, néfaste pour tout le monde, j'ai envie de dire, parce que si dans 6 mois il n'y a pas d'accord, que va faire la Maison Blanche? Eh bien, augmenter les tarifs sur toutes les voitures importées aux États-Unis. On parle d'une taxe de 25% également concernée les pièces détachées. Ça aurait donc des conséquences évidemment pour les constructeurs européens et japonais qui auront beaucoup plus de mal à vendre leurs produits aux États-Unis. Mais ça aurait aussi des conséquences pour les constructeurs américains qui, par exemple, font venir de Chine des composants ou des pièces détachées. On a calculé que si on appliquait ces tarifs, le prix des voitures made in America augmenterait de 400 à 6000 dollars selon les modèles. Donc il n'y a pas grand monde ici, ni les constructeurs ni les consommateurs qui pensent que ce serait une bonne idée. Enfin, plus largement, des taxes douanières sur l'automobile, ça aurait aussi des conséquences sur le commerce mondial, car il ne faut pas oublier que la voiture est au cœur des échanges internationaux et une telle décision pourrait considérablement affecter la croissance mondiale. On sera fixé, vous l'avez dit, dans 6 mois, 180 jours, c'est le délai de réflexion que se donne Trump. Quant à l'Europe, elle dit ce soir par la voix de sa commissaire au commerce qu'elle est prête à négocier un accord commercial avec les États-Unis, un accord qui inclurait les voitures.
Merci Grégory Phillips depuis Washington aux États-Unis. En Europe, justement, une nouvelle liste noire mise en place par l'Union européenne. L'annonce de sa création a été faite par le Conseil des ministres de l'Union par communiqué. Mais de nombreuses questions se posent sur son fonctionnement et sur son efficacité. Bonsoir Éric Biégala.
Bonsoir Benoît.
Cette nouvelle liste est censée viser les responsables de cyberattaques menées depuis l'extérieur de l'Union européenne pour, je cite, « briser le sentiment d'impunité des organisateurs de telles attaques » aux effets économiques parfois dévastateurs. Gel des avoirs et interdiction d'entrée sur le territoire de l'UE font partie des sanctions prévues, un peu comme à chaque fois, dans le cadre d'un nouveau dispositif dont on a bien du mal à voir s'il pourra vraiment être efficace, Eric.
Oui, d'abord, il faut bien voir ce qui est visé par le Conseil de l'Union dans cette décision rendue publique ce matin. Il s'agit bien des auteurs de cyberattaques, autrement dit, Et les choses sont clairement décrites dans l'acte législatif de cette décision. Il s'agit des attaques, des implantations de virus, de vers et autres programmes malveillants dans les systèmes d'information, quels qu'ils soient, mais particulièrement quand ils pilotent des infrastructures, publiques ou privées. Le réseau des hôpitaux, par exemple. Une cyberattaque de ce genre a ainsi touché 16 hôpitaux britanniques en 2017. Ces sanctions s'appliqueraient aussi aux attaques visant les atteintes à l'intégrité des données, ou même à l'interception des données, le vol des emails du Parti démocrate américain, par exemple, ou de la correspondance de l'équipe Macron pendant la présidentielle française. Il faut aussi, pour qu'elles soient sanctionnées, que ces attaques impactent des activités sociales ou des fonctions des États dites critiques. La procédure électorale, par exemple, ou les infrastructures bancaires, ou encore le réseau de distribution d'électricité. Mais les opérations de propagande en ligne, ou de trolling, la multiplication ou la répétition de fausses informations et autres fake news, relayées par des robots informatiques, tout ça ne rentre ainsi pas du tout dans cette catégorie de cyberattaque. Mais en fait, le problème numéro un reste l'identification de ces cyberdélinquants, de ces cyberattaqueurs. Vouloir leur interdire tout transit dans les pays de l'Union ou geler leurs avoirs suppose en effet qu'ils soient nommément identifiés, voire identifiables. Or, si on a bien identifié par exemple le groupe de hackers responsable de l'attaque sur le réseau électrique ukrainien, qu'il a paralysé pendant plusieurs jours en plein hiver, début 2016, on ne connaît absolument de ce groupe que ses noms et alias Sandworm Team, entre autres, et certainement pas l'identité des personnes physiques qui l'animent. La plupart des firmes de sécurité informatique font un lien entre ce groupe et le GRU, les renseignements militaires russes, mais les chefs du GRU sont déjà sous le coup de sanctions similaires de la part de l'Union européenne à la suite de leur très probable implication dans l'attentat au Novichok à Salisbury l'an dernier.
Merci beaucoup Eric Biegala. En France, Mehdi Nemouche, le tueur du musée juif de Bruxelles, récemment condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en Belgique, est arrivé après sa remise aux autorités françaises. On l'a appris aujourd'hui, il a été immédiatement placé en détention. Bonsoir Antoine Maret.
Bonsoir.
La justice antiterroriste française soupçonne Nemouche dans une affaire pour laquelle il est d'ailleurs mis en examen, d'avoir été un des geôliers d'otages français séquestrés en Syrie en 2013-2014.
Oui, effectivement, Didier François, Pierre Torres, Édouard Elias et Nicolas Hénin ont été enlevés en Syrie en juin 2013. Leur séquestration a duré un peu plus d'un an. Les quatre journalistes ont identifié Mehdi Nemouche comme un de leurs geôliers. Au cours du procès à Bruxelles sur la tuerie du musée juif, deux d'entre eux sont venus témoigner à la barre pour éclairer le tribunal sur la personnalité de Mehdi Nemouche. Nicolas Hénin et Didier François ont détaillé pendant plusieurs heures les sévices endurés et son attitude pendant leur captivité. Mehdi Nemouche a été mis en examen en novembre 2017 pour enlèvement et séquestration en bande organisée et en relation avec une entreprise terroriste ainsi qu'association de malfaiteurs terroristes criminels. Sa condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité le 12 mars dernier à Bruxelles a ouvert la voie à sa remise aux autorités françaises. Il a donc été transféré avant-hier et placé en détention provisoire à la prison de Meaux-Choconin, à l'est de Paris. Le juge devrait prochainement le convoquer pour un nouvel interrogatoire. Reste à savoir si Mehdi Nemouche va parler. En juillet 2018, le magistrat s'était rendu en Belgique pour l'entendre, mais le terroriste avait opposé le droit au silence à la soixantaine de ses questions.
Merci Antoine Maret. Nicolas Sarkozy ne dispose plus d'aucun recours pour éviter le tribunal correctionnel. Dans l'affaire Big Malion, le Conseil constitutionnel a rejeté aujourd'hui la requête de l'ancien président de la République. Il sera jugé pour avoir dépassé le plafond des dépenses électorales autorisées lors de sa campagne de 2012. Le Rassemblement national convoque un assistant parlementaire de l'eurodéputé Nicolas Bay en vue de son exclusion du parti. Une photo de Guillaume Pradoura a été diffusé récemment, le montrant déguisé, coiffé d'un chapeau de rabbin et de papillote, grimaçant et les mains aux doigts crispés. Bref, le caractère antisémite du cliché ne fait aucun doute. Nicolas Cadenne est le rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité.
C'est assez déplorable, détestable. Et pourtant, on a face à cela un europarlementaire qui réagit simplement en disant que c'est une simple plaisanterie. Or, il n'y a rien de drôle là-dedans. C'est clairement antisémite. Ça renvoie à des moments de l'histoire assez graves, justement très graves, qui renvoient aussi donc à une façon d'imaginer le juif comme forcément quelqu'un qui voudrait voler l'argent des autres, etc. Comme quelqu'un qui serait une sorte de rapace, c'est absolument détestable. Ce sont plus que des caricatures évidemment, ce sont ce genre d'images absurdes qui ont pu mener à d'autres discours de haine et à bien pire ensuite. Donc il faut évidemment être extrêmement vigilant à ce genre de messages. Et quand on écrit des lois ou qu'on vote des textes au Parlement européen, on se doit évidemment d'être encore plus vigilant que d'autres.
Des propos recueillis par Rosalie Lafarge. Emmanuel Macron s'engage encore un peu plus dans la campagne pour les européennes et il tente de tirer la liste LREM de Nathalie Loiseau qui semble à la peine face au Rassemblement National. À Biarritz, tout à l'heure, le chef de l'État a déclaré que le bilan du Rassemblement National au niveau européen est une catastrophe pour l'Europe et pour la France. Concernant les Gilets jaunes, Emmanuel Macron estime que la démocratie ne se joue pas le samedi après-midi et que le mouvement n'a désormais plus de débouchés politiques. Après les plaintes de plusieurs médias, dont celle de Radio France et celle d'ONG environnementale, Europe Écologie Les Verts réplique à son tour à Monsanto. Le parti écologiste réagit à la révélation du fichage de centaines de personnes par la firme américaine productrice de pesticides nocifs. Présent dans ces fichiers, plusieurs députés européens Europe Écologie Les Verts ont décidé de porter plainte. Boris Allier.
Parmi les personnalités présentes dans ce fichier, Michèle Rivasi, la députée européenne, fait partie des 200 personnes recensées par Monsanto, des journalistes, des politiques, des militants, tous classés en fonction de leur opinion sur les pesticides.
Sur toute la partie santé, OGM, glyphosate, ils estiment que je suis une fervente opposante aux substances chimiques que produit Monsanto et que j'organise des conférences de presse avec des experts et ça pour eux c'est inadmissible.
Certains ont également eu la surprise de retrouver leurs données personnelles, numéro de téléphone, adresse, loisirs. Pour les opposants à Monsanto, les risques de corruption ou de chantage sont évidents.
Ça va à l'encontre, si vous voulez, de la démocratie. Si on est capable de collecter des renseignements, de les conserver, de les transmettre, c'est parce que on veut soit contraindre quelqu'un ou soit s'en servir pour porter un message qui sert à Monsanto. Et ça, c'est illégal.
À quelques jours des élections européennes, la numéro 2 de la liste Europe Écologie Les Verts entend bien passer un message.
Il y a des députés à l'heure actuelle au Parlement européen qui ne sont pas seulement des législateurs, mais qui sont des députés militants, des députés qui osent dire non à des lobbies.
Dans ce dossier, le groupe allemand Bayer, qui a racheté Monsanto l'année dernière, a présenté ses excuses. Il indique également que ce type de fichier existe probablement dans d'autres pays.
Boris Allier, nouveau bug de grande ampleur pour Parcoursup. De nombreux étudiants ont reçu des messages d'admission indus, expliqués par des erreurs de paramétrage dans quelques 400 formations. C'est ainsi tout du moins que la ministre de l'Enseignement supérieur a tenté d'expliquer le cafouillage aujourd'hui. Philippe Martinez a été réélu tout à l'heure à la tête de la CGT, un syndicat en plein doute depuis qu'il a été doublé par la CFDT et largement remis en question par les Gilets jaunes. Philippe Martinez, dans son discours de clôture du congrès tout à l'heure à Dijon, a promis de remobiliser les troupes à l'avenir et de promouvoir un syndicalisme ouvert à la rencontre des salariés. Mais pour Jean-Marie Pernaud, chercheur en sciences politiques, le problème aujourd'hui de perte de vitesse du syndicalisme n'est pas propre à la CGT. Il se retrouve à travers toute l'Europe. Il est interrogé par Annabelle Grelier.
Il y a un problème global du syndicalisme face à la vague néolibérale qui a traversé de nombreux pays, parce qu'il y a partout des problèmes de cette ampleur. Même les syndicats nordiques, etc., mais ils se posent, eux, beaucoup de questions sur leur assise sociale. Ils ont des adhérents, mais ils sont pas mobilisés. Ils arrivent encore à construire des compromis, les Suédois, mais la base de ces compromis s'étiole de plus en plus. Les Allemands, n'en parlons pas. L'industrie, là, ils sont en train de prendre des coups. Et les syndicalismes des services, ils sont moins bien implantés que les syndicats français dans le commerce. Et puis ils ont les mini-jobs et tout, donc ils ont des problèmes considérables. Partout, le syndicalisme est en difficulté. Alors la France, elle a des capacités de mobilisation. Les syndicats français sont pas particulièrement en plus mauvaise posture qu'à l'étranger. Simplement chez nous, il y a cette invraisemblable guerre de tous contre tous face aux difficultés. Sur les grands enjeux de la période, et notamment la question des retraites qui s'annonce comme la mère de toutes les batailles, si les syndicats n'arrivent pas à trouver entre eux un minimum de points d'accord, eh bien ils auront beaucoup de mal à garder toute crédibilité auprès des salariés. C'est un enjeu auquel la CGT ne s'est pas forcément très bien préparée dans son congrès, mais qui de toute façon est posé à l'ensemble des syndicats.
Le défenseur des droits se déclare incompétent dans l'affaire Vincent Lambert, saisi par la famille Lambert, qui espère encore pouvoir faire annuler la décision d'arrêter les soins à partir de lundi. Le défenseur des droits a estimé qu'il n'était pas de son ressort de faire appliquer les mesures provisoires demandées par le Comité international des droits des personnes handicapées de l'ONU. Le CIDPH, cet organisme, veut pouvoir instruire le dossier sur le fond avant de se prononcer sur le cas Vincent Lambert. En Allemagne, une décision qui rappelle celle qui avait été annoncée il y a quelques semaines par Emmanuel Macron, un geste fait vis-à-vis de l'ancienne colonie namibienne. Monika Grütters, la ministre de la Culture, a annoncé ce matin à Berlin la restitution d'une croix en pierre, la croix de Cape Cross, après de nombreuses demandes qui étaient restées sans réponse. Si le travail de mémoire en Allemagne sur la période nazie est généralement jugé exemplaire, il n'en est pas de même concernant la période coloniale en Afrique de la deuxième moitié du 19e siècle et du début du 20e. Correspondance à Berlin, David Philippot.
Cette croix qui mesure plus de 3 mètres et pèse plus d'une tonne a la valeur du symbole. Ce sont les navigateurs portugais qui l'ont érigée, un repère sur la côte de la région aujourd'hui devenue la Namibie. En 1890, le pays, au sud-ouest de l'Afrique, est passé sous contrôle allemand et la croix avait alors été transportée à Berlin. C'est l'une des pièces maîtresses du musée de l'histoire allemande sur l'avenue Unter den Linden. Pour le président de la fondation du musée, Raphaël Gross, la restitution est un geste important pour la Namibie comme pour le musée, car elle permet de reconnaître une injustice historique. Avec la ministre de la Culture, il fera le voyage à la fin de l'été pour la restitution officielle du bien à l'ancienne colonie. L'été dernier, l'Allemagne avait déjà rendu 19 crânes, un scalp et d'autres ossements à la Namibie, qui fut autrefois appelée l'Afrique du Sud-Ouest. C'est aussi dans ce pays que, selon beaucoup d'historiens, le premier génocide du XXe siècle a été commis, celui des Herero et des Nama. Berlin a reconnu sa responsabilité, mais refuse de présenter ses excuses et donc de verser un dédommagement aux descendants des victimes. Déboutés en mars de leur demande de réparation, les plaignants ont fait appel la semaine dernière devant la Cour d'appel fédérale située à New York.
Il est 18h16 sur France Culture, la suite du journal avec l'enquête du service investigation de Radio France. Bonsoir Marjolaine Corr.
Bonsoir.
L'histoire ce soir d'un succès français sur Internet, un réel succès, mais qui commence à inquiéter dans le milieu médical.
Oui, c'est celle de Doctolib, le site qui permet de prendre rendez-vous avec son médecin en quelques clics sur Internet. Doctolib s'est imposé comme le numéro 1 des rendez-vous médicaux. La société est aujourd'hui valorisée plus d'un milliard d'euros. Et pour s'imposer de la sorte, elle a à la fois démarché les médecins libéraux et passé des contrats avec des établissements de santé et des collectivités. Elle en a conclu 1700 aujourd'hui et ces contrats sont juteux car ils entraînent souvent dans leur sillage l'arrivée de médecins hospitaliers qui exercent en libéral. En parallèle. Et c'est comme ça, par exemple, que le pneumopédiatre Luc Réfaber a rejoint Doctolib.
En fait, j'étais sur Doctolib, malgré moi, à la PHP. Et donc, les gens qui prenaient rendez-vous à mon cabinet, ils cherchaient à prendre rendez-vous avec moi, mais ils ne trouvaient aucun rendez-vous. Parce que mes rendez-vous à Necker sont à 9 mois, 1 an. Ils disaient, mais docteur, on ne peut pas prendre rendez-vous avec vous, pas possible. Et là, je me suis dit, ah mais non, là, il y a un problème là. Et donc, ça a été un des arguments puissants pour moi, en tout cas, de me mettre sur Doctolib, ce qui permettait aux gens de voir que y avait deux endroits et qu'ils pouvaient prendre rendez-vous soit à Necker, soit à mon cabinet, mais que les choses étaient beaucoup plus claires.
Donc on voit que Doctolib tisse effectivement sa toile et ça inquiète Marjolaine, mais pour quelle raison ?
Eh bien pour plusieurs raisons. D'abord parce que Doctolib est aujourd'hui en quasi-situation de monopole. Alors il existe bien 16 concurrents, mais ils sont presque invisibles. Et si demain la plateforme venait à changer sa pratique tarifaire par exemple, quels moyens auront les médecins de résister ? C'est en tout cas ce que pense David Bitton, le PDG de MyBestPro, qui détenait le concurrent Rendez-vous Médicaux.
Je pense que les gens n'ont pas pris conscience de ce qui était en train de se passer comme mouvement, parce que on ne prend pas conscience qu'une plateforme qui rend très très bien son service, à un moment, quand elle devient en position de monopole, elle peut aussi changer les règles, et donc elle peut avoir une influence sur le marché qui est colossale. Est-ce qu'un jour je devrais payer pour être mieux référencé en tant que médecin ? Donc je pense que négliger ce qui se passe en ce moment en fait, dans la santé en France avec cet acteur, ça me paraît bizarre, ça me paraît même dangereux.
Et alors, un autre point inquiète certains médecins, il est relatif à la protection des données des patients.
Oui, Doctolib connaît leurs coordonnées, qui ils consultent et aussi, dans le cas de la téléconsultation, les comptes rendus de consultation. Aujourd'hui, ces données sont notamment protégées par un règlement européen qu'on appelle le RGPD. Mais si demain, Doctolib devait être racheté par un Américain, par exemple, eh bien là-bas, une loi impose aux entreprises la transmission des données à l'État, même si celles-ci concernent des serveurs à l'étranger. Bref. Pour Alexandre Vervial, chargé de mission pour l'association de patients France Assos Santé, il ne faut pas relâcher la garde.
On voit qu'on est dans une bataille entre le droit américain et le droit européen sur toute cette gouvernance des données. Et donc on est très vigilant sur les risques potentiels de rachat et donc d'export des données aux États-Unis ou dans d'autres pays qui sont moins sur la sécurité, etc. Donc on veille.
Alors aujourd'hui, Stanislas Nyok-Château, le fondateur de Doctolib, assure qu'il ne vendra pas sa société, mais qui peut prédire l'avenir, hein ? On se trouve donc devant un acteur privé qui peu à peu se rend incontournable dans le domaine de la santé publique, mais sans qu'on en mesure encore toutes les conséquences.
Merci Marjolaine Corr. Votre enquête pour le service d'investigation de Radio France est à retrouver sur notre site internet franceculture.fr. Un temps maussade demain est souvent pluvieux, annonce Météo France. Les averses concerneront la plupart des régions, prenant par moments un caractère orageux. Les températures minimales seront comprises entre 7 et 10 degrés, maximales de 13 à 17, jusqu'à 20 sur les régions méditerranéennes.